Direct en jeu de Radio Insolite, là c'est de l'insolite, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce qu'on doit commencer par une belle histoire d'amour? Est-ce qu'on doit commencer par une mobilisation, par un projet naturel et nature? Voilà, alors attention, ils sont trois, ce ne sont pas les trois mousquetaires, mais on pourrait considérer que ils sont un peu à l'origine d'une idée qui sort de l'ordinaire. Il y a d'abord Frédéric, bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Il y a ensuite Sylvain.
Bonsoir.
Et enfin, il y a surtout Sandrine, la merveilleuse Sandrine. Bonsoir Sandrine. Donc, je redis ce que j'ai dit juste avant de commencer l'interview. Frédéric, Sylvain, pouvez-vous en aller? Il n'y a pas de problème, je garde Sandrine. Hein.
C'est bon, c'est là.
Alors, quand je dis une belle histoire d'amour, c'est désolé pour Sylvain et Sandrine, mais moi, j'ai une info qui est importante. C'est que nous sommes en 2024, mais c'est en 2017 que Frédéric, pour son mariage, a eu une idée qui sortait de l'insolite.
Ah oui, c'est exact. Ouais. Tout a débuté en 2017 quand, du coup, quand j'ai demandé ma femme en mariage. Elle est originaire de Paris en fait, et puis on s'est marié dans ma ville d'origine, à Mayenne. Et du coup, je me suis dit que, pour coller un peu plus à la tradition qui veut qu'on se marie dans la ville de la fiancée, eh bien, je me suis dit que j'allais lui fabriquer un petit morceau de Paris en fait en Mayenne. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de fabriquer une première tour Eiffel qui faisait elle aussi 16 mètres de haut en bois.
D'accord. Ok, c'est pas mal. Ton métier, Frédéric?
Alors moi, depuis que j'ai 16 ans, en fait, je suis menuisier ébéniste. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises où dernièrement c'était plus de l'agencement, mais j'ai roulé un peu ma bosse aux quatre coins du monde pour apprendre différentes techniques de menuiserie et d'ébénisterie.
D'accord. Sylvain?
Oui.
Ta rencontre avec Frédéric?
Ma rencontre avec Frédéric date depuis 2022, par le biais d'une association qui s'appelle Le Petit Lieu. C'est une association éphémère où on propose différents événements, en septembre 2023, il m'a proposé de l'accompagner dans ce projet de Tour Eiffel, toute faite de bois, de récupération et de matériaux de récupération. Sachant que c'était pour les JO de 2024 qui sont en France. Et moi étant paraplégique de naissance et ancien sportif, et j'ai dit allez, ok, on est parti.
Tout à fait, voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle des JO, n'oublions pas qu'il y a les JOP. Et d'ailleurs, Paris a le même logo pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ça c'est important.
Okay. Voilà, tout à fait.
Et toi, Sandrine, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as suivi, là? Pas de discussion? T'as été obligée?
Moi, je suis d'abord la femme à Sylvain.
Ah, donc c'est Sylvain qui t'a dit, ouais, tu dois me suivre.
Et j'ai rencontré Frédéric aussi au Petit Lieu.
D'accord.
Donc après, j'ai suivi
Le Petit Lieu, c'est une association qu'on a dans notre petit village de 6000 habitants. C'est une association qui est ouverte l'été, en fait, et on propose des concerts, des différents ateliers. Moi, j'anime parfois des petits ateliers de menuiserie où j'invite des personnes, des novices à venir découvrir un peu le faites-le vous-même avec du bois. Et donc, Sylvain avait déjà participé à un atelier. On avait modifié ensemble le bar de l'association pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Et c'est comme ça qu'on a commencé déjà à faire des premiers coups de scie sauteuse ensemble et les premiers bricolages ensemble.
D'accord. Ce que j'ai bien aimé dans la présentation de votre projet, c'est que vous avez deux objectifs par rapport au projet de construction de cette tour Eiffel. Vous avez l'inclusion et vous avez l'écologie.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est vrai que l'inclusion, parce que avec nos différences, avec nos handicaps, avec les gens aussi, parce qu'on a fait travailler beaucoup de monde sur, en fait là on est trois à l'antenne là, mais en fait on a été beaucoup plus à travailler sur ce projet, et on voulait se réunir malgré toutes nos différences et sur un projet commun, et puis essayer de le porter le plus haut possible. Donc ça c'était pour l'inclusion, puis après pour l'écologie, on a été ensemble récupérer des différents matériaux dans des bennes de bois que mettent à disposition les entreprises à l'extérieur de leur atelier. On a été récupérer des palettes qui traînaient un peu à droite à gauche. Sylvain et Sandrine sont bien occupés de tout désosser toutes ces palettes. Hein. Ouais. Il y avait quoi d'autre à faire sur les palettes? Les pointes à
enlever. Les pointes à enlever. Ouais. tout enlever les pointes. Okay, voilà,
ça, c'était le gros travail de préparation pour obtenir tous les matériaux. Aller glaner les matériaux un peu partout.
Pour obtenir un maximum de bois pour la conception de cette tour Eiffel.
Pourquoi avoir choisi le bois?
Ah bah le bois, parce que c'est, je pense que c'est déjà d'une part on avait une bonne quantité qu'on voyait sur le bord des routes en fait, qui était destinée à aller à la benne, et puis après parce que j'ai des connaissances dans le domaine du bois vu mon expérience professionnelle, et puis c'est quelque chose justement le travail du bois que je pouvais partager avec Sylvain et Sandrine et les autres acteurs de cette conception en fait. C'est quelque chose que je pouvais transmettre, c'est quelque chose qui est assez important aussi, c'est la transmission dans ce projet là.
D'accord, il y a vraiment, comment dire, ça va beaucoup plus loin qu'une simple construction, quoi. Il y a vraiment tout.
Ah bah oui, complètement. Mm-hmm. Ah oui, complètement. D'ailleurs, oui, c'est pas mal de défis réunis sur ce projet-là, en fait. Ouais.
D'accord. Moi, je me suis posé une question toute bête. J'ai bien entendu que tu avais indiqué qu'elle faisait 16 mètres de hauteur. Mais comment on fait pour aller planter un clou à 16 mètres ou mettre une vis, pardon?
Déjà, pourquoi 16 mètres? Je me suis encore posé fréquemment la question dernièrement. Je me dis, pourquoi on a fait un truc aussi grand en fait? On s'en serait moins embêté si on l'avait fait deux fois moins haut. Mais en fait, le secret pour planter les clous tout là-haut, c'est qu'on a tout fabriqué au sol en fait. Et après, à l'aide d'un camion grue, on assemble tous les morceaux. Voilà, et ça nous permet d'élever les plus hauts morceaux tout là-haut. Mais tout ce qui est vissage, toute la conception, on a tout réalisé au sol. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, même les parties les plus hautes de la tour Eiffel, eh bien, Sylvain a pu participer à sa réalisation aussi au sol, en fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
D'accord. Vous avez étudié la technique de fabrication de Gustave Eiffel à l'époque ou vous vous êtes dit, allez, on fait par nous-mêmes?
Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ce que j'en pense, c'est que Fred l'avait déjà conçu une première fois pour son mariage. Donc après, il avait tout conçu sur les ordinateurs, les codes et tout ça. Donc après, avec tout ça réuni, on n'avait plus qu'un.
Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même se redocumenter, parce qu'en fait, la première tour Eiffel que j'avais fabriquée pour mon mariage, eh bien, on avait bien l'idée, on avait bien l'esprit, hein. Mais par contre, au niveau de la forme, ça collait pas exactement à la vraie. Donc, je me suis beaucoup documenté. En plus, ce qui est chouette, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de films, de documentaires sur cette création de Gustave Eiffel. Mmh. Et j'ai pu retrouver des documents qui m'indiquaient des cotes, qui m'indiquaient pas mal de détails techniques. J'ai regardé beaucoup de vidéos aussi, de vidéos de drones qui filment la tour Eiffel à différentes hauteurs pour avoir le maximum de détails. Et effectivement, après, je suis passé par un logiciel de dessin technique qui m'a permis de retracer entièrement toutes les parties de la tour Eiffel pour qu'on puisse ensuite avoir tous ces schémas-là, tous ces plans, toutes ces épures avec nous lors de la réalisation.
D'accord. Alors, si je ne dis pas de bêtises, elle fait 6,50 m de large. Elle pèse 900 kg, pardon. Comment est-ce qu'on... évidemment, comment dire, là où tu te trouves, tu as tout l'espace disponible pour pouvoir installer ça.
Alors, excuse-moi, j'ai pas bien compris la question.
J'ai dit simplement, comment dire, que quand on a une tour Eiffel qui fait 16 mètres de hauteur, 6,50 m de large, qui pèse 900 kg, on peut la poser n'importe où.
Ah bah oui, c'est ça, on peut la déplacer en fait assez facilement parce que cette tour Eiffel, elle se démonte en 12 morceaux. Oui. 12 morceaux, nous on a trouvé un partenaire, là c'est un transporteur qui a un camion grue en fait, un camion avec une grue qui fait 20 mètres de haut. Et donc en fait on peut la transporter assez facilement, on peut se déplacer un peu partout avec, et il nous faut à peu près 4 heures pour faire un montage, on va dire autant pour faire un démontage. Elle peut s'installer un peu partout en fait. Elle fait effectivement 900 kilos, mais on a vu que une fois mouillée elle faisait 1,2 tonne. Elle fait 1,2 tonne. Et c'est pas grave qu'elle fasse 1,2 tonne en fait, parce que plus elle est lourde en fait, et plus elle tient bien au sol avec le vent et les différents événements climatiques qu'il peut y avoir.
D'accord. Si j'ai bien compris, votre objectif, c'est de faire un peu le tour de France, de la positionner dans les endroits où on peut fêter cette tour Eiffel assez originale en bois. Et donc, il faut quand même une surface assez conséquente pour pouvoir accueillir cette tour Eiffel.
Oui, c'est ça. Bah, il faut compter une surface de, on va dire, 20 mètres par 20 mètres. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut à peu près. Il faudrait 400 mètres carrés pour pouvoir la monter. Bon, après, en fait, on a besoin de 400 mètres parce que donc la tour Eiffel à sa base elle fait 6 mètres 50 par 6 mètres 50. Mais après, on doit installer des blocs béton autour pour pouvoir poser les haubans. Donc les haubans, ces cordes qui permettent de la maintenir au sol en cas de coup de vent. Parce qu'on met un point d'honneur à la sécurité, on voudrait pas que par avis de tempête elle puisse se retourner en fait. Bon, on a eu la chance la semaine dernière en fait avant de la démonter au sud de Nantes, on a eu un avis de tempête, là il y a eu un coup de vent, la tempête Louis qui est arrivée. Et on a pu faire des essais, on va dire, en soufflerie géante, hein, parce que la tempête a bien soufflé sur la tour Eiffel, qui est encore debout. D'accord. Et qui a pas du tout vacillé, en fait. On a fait plein de tests dessus, du coup, on a pu mettre en place à son pied un niveau laser, déjà, pour voir qu'il n'y ait pas de décollement des pieds. On a pu aussi poser des caméras pour voir s'il n'y avait pas des déplacements de la flèche. Et en fait, elle s'est pris des rafales à 80, 85 km/h. Elle n'a pas bougé, en fait. Elle n'a pas bougé. Et c'est de toute façon, enfin, ça fait plaisir à voir, mais d'une autre part, on n'était pas surpris parce qu'en fait, on fait travailler actuellement un bureau d'études et un bureau de contrôle pour pouvoir l'exposer en public. Et ces bureaux d'études et de contrôle, en fait, ils travaillent eux sur des logiciels pareil de dessin technique. Ils ont reproduit une maquette en fait de la Tour Eiffel sur un logiciel de dessin et sur lequel ils appliquent des coefficients de vent, du poids, comme s'il y avait de la neige aussi dessus, plein de paramètres, comme s'il y avait un tremblement de terre aussi, ce qui nous permet de voir ce qu'elle tient bien debout et puis jusqu'à quel point elle peut tenir debout. Et en fait, ils ont même fait des tests avec des rafales de vent à 140 km/h dessus pour voir si elle tient toujours le choc et il y a pas de souci. Donc on est plus que rassurés pour la sécurité du public qui viendrait la voir même en cas de tempête, quoi.
D'accord. Logiquement, elle est créée, comment dire, en vue des Jeux Olympiques, donc 2024, c'est entre le mois de juillet et début septembre. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez en faire après ? Parce que je suppose que vous allez quand même est-ce que vous allez la garder de votre côté ? Est-ce que vous allez la positionner quelque part dans un endroit un peu symbolique ?
Oui, ben en fait, on a l'intention aussi de voir différents autres événements. Tout ce qui est événements sportifs ou même événements personnels comme des mariages, des baptêmes, musique, voilà, des festivals. Le but premier, c'est de l'exposer pour les JO, mais après, tant qu'elle sera encore solide et qu'elle tiendra le bout, on compte bien continuer à la faire voyager dans différents endroits et différents événements, quoi.
De toute façon, entre chaque montage et démontage, il y aura toujours une petite période où on fera des vérifs dessus, on verra s'il y a des modifs. Il y aura de l'entretien à faire, hein, c'est sûr, hein, c'est du bois, donc voilà, il y aura de l'entretien à faire. Mmh. Et puis, ce qu'on lui souhaite, peut-être, c'est de voir aussi d'autres pays, hein, pourquoi pas.
Ah oui, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai listé le nombre de tours Eiffel qu'il y avait en France, il y en a à peu près 80.
Ah oui, ok.
Ah oui, parce qu'il y a... Il y a plein de choses qui s'appellent Tour Eiffel, hein. Évidemment, nous, par exemple, sur Lyon, on a juste à côté de Fourvière une petite Tour Eiffel qui est en fait qui a permis des émetteurs pour diffuser radio, télévision. Mais il y a plein d'autres trucs. Évidemment, on a beaucoup parlé quand même du monsieur qui avait fait la Tour Eiffel en allumettes et qui avait eu quelques complications pour être validé par le Guinness Book des records. Maintenant, il l'est. Mais bon, et puis évidemment, quand on va du côté de Colmar ou dans d'autres endroits, on a la Statue de la Liberté et puis aussi la Tour Eiffel.
Question
indiscrète.
On a vu que c'était
pas mal de repris. Ouais. Question indiscrète. Après la Tour Eiffel, vous avez une autre idée ?
Oui, il y a déjà quelques petits projets en tête, mais... Pour le moment, déjà, on va s'occuper de ce chantier-là.
Pour préciser ce chantier-là.
Ouais. Et il y a toujours plein d'idées en tête, des pas mal de choses farfelues, pas mal de choses assez grandes. Encore peut-être, on fera peut-être une petite pause aussi parce que c'est quand même assez éprouvant en fait, hein, ce genre de défi-là.
Oui, parce que ça me paraît. Vous avez dit c'est en septembre à peu près, septembre 2023, ouais. Vous y êtes mis.
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça.
Il a pas assez rapide, hein, parce que bon, même Gustave Eiffel, il a mis un peu plus de temps pour construire sa tour Eiffel.
On n'est pas exactement sur le même projet, mais les dernières visites, là, je retourne à Paris encore la semaine prochaine. À chaque fois, j'aime bien retourner faire un petit passage à proximité de la Tour Eiffel et effectivement voir l'ampleur de ce chantier. Quand nous on l'a réalisé, elle est à l'échelle 1/20e, Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de se rendre compte du travail qui a pu être effectué sur le monument original, quoi.
Oui, puis je ne sais pas s'il l'avait créé pour qu'elle dure si longtemps. Hein. Je ne pense pas que dans son idée de base, c'était ça, quoi. Ça vous a permis, je suppose, quand même, de vous faire connaître d'une manière un peu différente pour toi, Frédéric, en tant que menuisier ébéniste. Est-ce que ça a provoqué un regain d'intérêt pour ces métiers artisanaux, le fait de vous demander de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire? Est-ce que vous avez eu des approches de ce type-là?
Ouais, on a, ça commence en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu un bon coup de pouce médiatique là dernièrement, et on se rend compte que beaucoup déjà s'intéressent au projet. On a eu beaucoup de remarques, de compliments. Bon, y a un peu de tout après, hein. Y a des compliments. Des fois, il y a eu aussi des petits pics, souvent des petits clins d'œil aussi à Monsieur François Pignon. Mais c'est le jeu. Mais après, nous dans notre démarche, en fait, ce qui va continuer derrière, en fait. Le projet qui pourrait voir le jour plus tard et qui m'anime, ça serait de monter un petit atelier de menuiserie pour pouvoir partager ses connaissances, mes connaissances, avec tout type de personnes, que ça soit des personnes en réinsertion, en situation de handicap. Et je vois qu'il y a un intérêt quand même pour ce genre de démarche. Donc oui, je pense que ça éveille peut-être certaines consciences, quoi.
Ok. Bon, je crois, si, on va en finir. Je crois qu'il y a un tract qui arrive. Et puis, il y a une cagnotte aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Oui. On a mis une cagnotte en ligne là, sur le site Ulule pour financer les dernières parties avant exposition. En fait, là, le fait de travailler avec un bureau d'études et un bureau de contrôle, c'est des opérations qui sont assez complexes et assez onéreuses, du coup, parce que là, ça doit faire peut-être 2 mois qu'ils travaillent dessus, là, les différents bureaux. Et donc, on cherche à récolter 6 960 euros. Donc, on cherche des dons, on cherche des mécènes, on cherche un peu à financer cette dernière étape, parce qu'on va pas se limiter à un problème d'argent, en fait, pour aller au bout de notre projet.
Donc, comment est-ce qu'on fait? On va sur Ulule, on tape Tour Eiffel en bois?
Ouais, c'est ça, en fait. On va sur Ulule, on tape A majuscule, parce que c'est le nom qu'on a donné à notre projet. A majuscule parce que c'est la forme, le A majuscule c'est la forme de la Tour Eiffel, et puis le A pour la notion d'amour qui anime cette Tour Eiffel, quoi.
Ok, parfait. Bon, écoute, moi j'aurais plaisir à suivre un peu votre actualité, parce que je pense que c'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire, qui est assez original, et puis qui sait, peut-être qu'on va l'avoir arrivé dans notre belle région lyonnaise, on peut jamais savoir.
Ça me ferait plaisir, ouais.
Okay. Ouais. Merci en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer ce projet. Et puis, il y a un site internet où on peut retrouver tout ça?
Alors oui, il y a un site internet qui est un peu moins facile à retrouver, mais par contre, si vous avez accès à la plateforme, au site Ulule, à la cagnotte Ulule, il y a des liens vers notre site internet, parce que le site qu'on nous a créé, c'est un Google site. Alors c'est pas facile. D'accord. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, le site, comme ça vous pourrez le rediffuser à vos auditeurs.
Ok. Merci pour avoir bien expliqué tout ça. Puis dans le théâtre, on dit toujours toi toi, on dit jamais le mot de cambroi, de cambronne. Donc je vous dis toi toi, comme ça, ça veut dire bonne chance, ça veut dire que vous puissiez profiter de cette expérience, cette notoriété largement méritée. Merci à vous.
Merci. Toi toi, Alain. Toi toi.